Sans Contrôle, le podcast 100% abstinence.
Loco Pedros, Pedros Loco, c'est fabuleux.
Au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
Autour de la table. David Filippo, Ouest France. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, Ouest France. Un podcast présenté par Simon Rongoat, It West.
Salut les amis et bienvenue dans Sans Contrôle. Vous en avez deux dans la même semaine des podcasts. Hein. On vous régale et c'est chose promise, chose due. Notre dossier sur la violence dans les stades qui va nous occuper aujourd'hui. Les ultras qui sont souvent montrés du doigt par les autorités, par certains médias, par le grand public, à juste titre ou pas. Comment fonctionne-t-il? Peut-on vraiment imaginer un football plus apaisé? Le sociologue Nicolas Orcade nous rejoint dans quelques instants.
C'est bon, hein. Juventino.
Ça rappelle chez.
C'est à Milan, hein. C'est à Milan, ça rappelle que ti amo. Ça doit être parce que je t'aime, chantent les ultras milanais. Ça doit être parce que je t'aime que j'organise ma vie autour de toi. C'est la déclaration d'amour, hein, que peut faire tout ultra à son club, à son groupe. On parle de tout ça, des supporters ultra, avec le sociologue Nicolas Orcade. Bonjour.
Bonjour.
La mort tragique de Maxime, Nicolas, nous a particulièrement secoués à Nantes. Elle a suscité un véritable traumatisme partout en France. Ça a engendré un débat sur le monde des ultras. Le drame a fait réagir le pouvoir politique, qui a décrété un moratoire sur les déplacements de supporters. Alors un mois après, on prend le temps, dans son contrôle de la réflexion, et on va commencer tout simplement par définir les choses ensemble. Être ultra, c'est quoi aujourd'hui, selon vous? Et comment le mouvement a-t-il évolué depuis 40 ans?
Bah, moi, j'ai une réponse qui déplaît et qui est pour ça très intéressante. Être ultra, c'est vouloir être ultra, en fait. Parce qu'il y a différentes manières d'être supporter qui se distinguent les unes par rapport aux autres. Les ultras, c'est une forme spécifique de supporterisme qui suppose à la fois de soutenir son équipe, mais d'être en compétition avec les groupes ultra adverses. Et donc, ceux qui sont ultras sont ceux qui s'engagent dans cette compétition entre groupes et entre clubs avec des formes un peu particulières. Après, pour bien comprendre, il faut retracer un peu l'histoire du supporterisme ultra, ce que je peux faire rapidement. En gros, c'est un style de supporterisme qui apparaît à la fin des années 60, début des années 70 en Italie, à un moment où des jeunes supporters d'une vingtaine d'années décident de se regrouper dans un même endroit du stade, généralement derrière les buts, et d'encourager leur équipe de manière fervente pendant tout le match. Alors que jusque-là, ce qui commençait à se structurer, c'est les Milan Club, Juve Club, Inter Club, donc des gens de tous âges, qui sont pas forcément rassemblés au même endroit dans la tribune et qui sont réunis par le fait qu'ils sont du même quartier, de la même ville, etc. Et donc, au départ, les ultras, c'est des jeunes supporters très, très engagés. Et puis, ce style de supporterisme conquiert petit à petit toute l'Italie et puis s'est répandu dans le monde entier. Il est devenu aujourd'hui la forme un peu la plus spectaculaire. Et en France, il existe depuis, grosso modo, le milieu des années 80.
Ça part d'un quartier, d'un club, d'une ville. Il y a ce sentiment d'appartenance. L'appartenance au groupe aussi, vous l'avez rapidement évoqué, elle passe avant le soutien au club, en même temps que le soutien au club?
Bah en fait, les ultras, ils ont une double passion. Ils sont passionnés d'une part par le football et leur club qui souhaitent voir gagner, et d'autre part, ils sont passionnés par leur groupe et le mouvement ultra, donc la compétition entre ultras. Donc en fait, c'est une double passion qui, pour certains, est équivalente. Pour d'autres, c'est le foot qui compte plus. Pour d'autres encore, c'est les groupes ultra, enfin l'engagement d'ultra qui est le plus important. Donc fondamentalement, pour bien saisir ce style de supporterisme, c'est vraiment cette double passion, d'une part le terrain, d'autre part les tribunes.
Justement, qu'est-ce qu'a apporté ce mouvement-là en France, à la fois dans l'animation des tribunes, et puis quelle place il a pris au fil des ans dans le football français?
Bah déjà, il faudrait, enfin, que je caractérise un peu plus objectivement. Là, j'ai situé un peu historiquement, mais objectivement, on peut distinguer les groupes ultra par plusieurs caractéristiques. D'abord, bah, ce soutien permanent à l'équipe, à domicile comme à l'extérieur, pendant tout le match. Un soutien qui est extrêmement organisé et spectaculaire. C'est les chorégraphies qu'ils organisent au début du match, c'est le fait que les chants soient lancés par un leader avec un mégaphone ou une sono de manière très encadrée, les mouvements d'ensemble, etc. C'est aussi un style de supporterisme qui revendique son propre point de vue sur le club et sur le football. Donc il ne va pas hésiter à s'opposer aux joueurs, aux dirigeants, s'il n'est pas d'accord avec eux. Donc c'est un style de supporterisme qui est beaucoup plus critique que le supporterisme traditionnel qui existe depuis le début du XXe siècle. Et le dernier point qu'on a déjà évoqué, c'est le fait d'être en compétition avec les autres clubs et les autres groupes, ce qui légitime aux yeux des ultras le recours à la violence verbale pour déstabiliser l'adversaire, mais aussi éventuellement à la violence physique pour trancher un peu les conflits. Et donc, de ces caractéristiques objectives découle ce que les ultras ont transformé dans les stades. D'abord, ils ont transformé la géographie des stades parce que les supporters les plus passionnés se sont rassemblés dans une tribune derrière les buts. Alors dans certains stades, il y a deux tribunes ferventes, mais dans la plupart des stades, c'est dans une tribune derrière les buts. Et finalement, l'ambiance est un peu concentrée là. Les autres tribunes délèguent la fonction principale de soutien aux ultras. Ils ont transformé visuellement aussi ce que sont les stades avec les fumigènes utilisés de manière massive, les grands drapeaux, les chorégraphies. Ils ont transformé aussi les stades parce qu'il y a maintenant un secteur réservé aux supporters visiteurs, puisque comme ils sont en conflit avec les autres supporters, ces supporters visiteurs sont protégés. Ils ont transformé aussi l'ambiance, finalement, pour ceux d'entre vous qui, comme moi, sont suffisamment vieux pour avoir connu les stades avant les ultras. L'ambiance, aujourd'hui, elle est quasiment permanente, c'est-à-dire que les ultras lancent des chants un peu tout le temps, alors que l'ambiance traditionnelle des stades de football était très liée au déroulement du match. Donc il y a une transformation qui est profonde dans la géographie et l'atmosphère du stade, mais aussi dans le fait même d'être supporter, qui devient un engagement associatif et militant important pour ces supporters.
Comment on intègre un groupe ultra? Est-ce qu'il y a je vais être complètement novice, est-ce qu'il y a des rites de passage? Est-ce qu'il faut faire ses preuves? Comment il faut montrer son engagement? Et deuxième question, comment est organisé à l'intérieur d'un groupe ultra? Est-ce que c'est hiérarchisé entre les leaders? Est-ce qu'il y a une garde rapprochée et des suiveurs derrière? Comment se passe l'organisation à l'intérieur du groupe?
Bah déjà, le fait d'entrer dans un groupe ultra, il y a deux voies principales. Soit on entre par le football, on est passionné de foot, on soutient son équipe et on va avec les ultras parce que c'est eux qui encouragent le plus intensément l'équipe. Soit on y va par les tribunes elles-mêmes, c'est-à-dire que des amis nous disent, notamment quand on est jeune, tiens, il y a une ambiance sympa et on rentre par les tribunes. Souvent, les gens qui sont rentrés par le football ont une durabilité plus longue dans les groupes ultra. Ensuite, sur des rites de passage, à proprement parler, ça dépend des groupes, mais pas forcément. En revanche, effectivement, il faut faire ses preuves. Il faut faire ses preuves pour être accepté au cœur du groupe. Et faire ses preuves, c'est aider quand il faut organiser les chorégraphies, participer très régulièrement aux déplacements, en gros, participer à toute la vie associative du groupe. Et précisément, puisqu'il y a une vie associative, il y a une structuration et une hiérarchie. On n'est pas sur des bandes, hein, on est vraiment sur des associations avec des porte-paroles, des leaders qui lancent les chants, des gens qui organisent les tifos, des gens qui organisent les déplacements, et les sociologues qui observent ces groupes les désignent souvent avec l'idée qu'il y a plusieurs cercles concentriques. Il y a au milieu le noyau dur de ceux qui sont toujours là présents, qui sont les plus engagés. Autour, moi ce que j'appelle un noyau mou, c'est pas forcément très élégant, mais de gens qui sont là souvent, qui sont connus des plus actifs, qui donnent des coups de main, qui participent pas mal aux déplacements. Ensuite, il y a tous les sympathisants, les adhérents, ceux qui sont en tribune, qui participent aux chorégraphies, aux chants, etc. Et puis à la base de l'ensemble de la tribune qui, sur les grands mouvements d'ensemble, sur les grands chants, participe aussi. Donc c'est plusieurs cercles concentriques. Certains restent toujours dans le même cercle, ils restent toujours sympathisants, ils n'ont pas envie de plus s'engager. D'autres s'engagent et progressivement deviennent plus proches du cœur du groupe.
On comprend bien le fonctionnement associatif, même si ça n'est pas tout à fait comparable avec une association dont on peut être membre tout simplement en prenant une carte d'adhésion. Là, les groupes ultra, pour ceux que je connais en tout tout cas, il me semble qu'il faut une adhésion du groupe pour pouvoir intégrer le groupe. Il ne suffit pas de payer une carte et puis une cotisation est terminée. Et puis, certains groupes en France ne souhaitent pas se constituer en association. Et ça, c'est pour une question de responsabilité juridique aussi.
Alors, il y a deux choses. En France, la plupart des groupes sont formalisés en association loi 1901. Il arrive que certains groupes refusent de l'être ou se dissolvent officiellement pour justement pas avoir cette responsabilité légale-là, mais la plupart des groupes sont en association loi 1901. Et ensuite, sur l'adhésion, il faut distinguer deux choses. Pour être membre d'un groupe ultra, il faut adhérer et payer une cotisation. Ensuite, les ultras, ils sont tiraillés entre deux logiques. D'une part, être le plus nombreux possible pour chanter le plus fort, faire les chorégraphies les plus grandes, être le plus nombreux en déplacement. Et d'autre part, ils se définissent un peu comme une élite des supporters, les plus engagés, les plus impliqués, les plus amoureux de leur équipe ou de leur groupe. Et donc, ils sont amenés à gérer ces deux logiques. Et dans certaines tribunes, il y a deux niveaux. Il y a l'association loi 1901, et le groupe ultra lui-même qui est réservé à l'élite des plus engagés. Ça peut être le cas à Marseille avec les winners, à Lyon avec la distinction entre Cop Virage Nord et Bad Gone, à Nantes aussi entre la Tribune Loire et la Brigade Loire, mais c'est pas le cas dans toutes les tribunes et dans beaucoup de groupes ultra, il suffit d'adhérer pour être membre. Après, pour être reconnu comme très actif par les leaders, ben effectivement, ça passe par le fait de faire ses preuves, comme on l'a évoqué précédemment.
À Nantes, il n'y a pas d'association, mais il y a effectivement deux niveaux, Brigade Loire ou sympathisant Tribune Loire, avec la possibilité d'être encarté que Tribune Loire par exemple. Voilà ce qui existe du côté de Nantes. Jean-Marcel.
Vous parlez de vie associative ou de vie du groupe, comment elle existe? Existe-t-elle aussi en dehors du stade? Enfin, on l'avait vu notamment au moment du Covid où les ultras s'étaient mobilisés pour pas mal de choses. Est-ce qu'elle existe en dehors des tribunes et comment elle se matérialise?
Alors oui, elle existe en dehors des tribunes et c'est arrivé relativement vite dans l'histoire des groupes ultras. C'est-à-dire qu'au départ, il a fallu qu'ils s'implantent dans les tribunes, qu'ils se fassent reconnaître par les autres supporters comme des groupes de supporters pas uniquement préoccupés par la violence verbale ou la violence physique, mais préoccupés vraiment par soutenir leur équipe, donc qu'ils se fassent reconnaître. Une fois qu'ils ont été bien intégrés dans les tribunes et qu'ils sont devenus un peu les moteurs, ils se sont installés en ville. C'est-à-dire que dès les années 90, il y a plusieurs groupes ultras qui louent un local en ville, où ils se retrouvent quotidiennement pour faire vivre l'association, pour préparer les chorégraphies, les déplacements, etc. Et le fait d'avoir cet ancrage local a fait que de nombreux groupes, notamment d'abord à Marseille et puis ensuite un peu dans toute la France, ont cherché à s'implanter localement. C'est-à-dire que les ultras, ils ont à cœur de montrer que, certes, ils soutiennent leur équipe, mais plus largement, ils défendent leur ville, leur région, et donc qu'en tant qu'association, ils s'engagent finalement dans la vie locale. À Marseille, c'est particulièrement clair, c'est là que c'est le plus médiatisé, mais c'est vrai dans bien d'autres endroits, où les associations ultra sont des acteurs locaux importants qui vont mener tout un ensemble d'actions, collecte de jouets pour des enfants malades, collecte pour lutter contre telle maladie, maraude dans les rues pour donner à manger aux sans-abri. Enfin voilà, il y a des activités très, très différentes et qui sont
à Nantes, Nicolas Orcade, on a quelque chose de semblable au moment du Covid d'ailleurs. La Brigade Loire avait lancé une cagnotte pour le personnel du CHU de Nantes à cette période du Covid.
Ouais, c'est à ce moment-là que ça a été le plus médiatisé et connu des gens qui suivaient pas forcément le monde ultra, parce que précisément là, l'essentiel de l'activité se concentrait sur ces activités hors stade, et donc ça a été vu soit donner, acheter du matériel pour le personnel soignant. Enfin, il y a tout un ensemble d'actions qui sont différentes d'un groupe à l'autre, d'une ville à l'autre, mais là aussi c'est lié d'une part à cette logique associative et d'autre part à cette volonté d'être un acteur local important et pas uniquement un acteur au stade.
Vous avez aussi parlé dans le rôle des ultras, enfin ce qui a changé, en tous les cas dans leur essence même, c'est ce regard critique un peu. Il y a une activité militante, ils se définissent souvent pour avoir eu un rôle d'alerte. C'est quelque chose aussi qui a modifié les rapports entre supporters, clubs et autres acteurs du foot français.
Oui, ça a pas mal changé les choses parce qu'effectivement, c'est les premiers groupes de supporters à affirmer leur autonomie, leur indépendance d'esprit et leur point de vue critique. Et ça a eu d'autant plus d'importance que les ultras se sont développés dans les années 90 à un moment où le football européen se transforme complètement avec l'essor de la Première Ligue puis de la Champions League, l'arrêt Bosman qui permet aux meilleurs joueurs européens d'aller dans les meilleurs clubs européens, l'émergence des chaînes de télévision à péage qui sont friandes des matchs de football pour avoir des abonnés. Du coup, l'économie du football se transforme complètement dans cette décennie-là. Et finalement, ce que ça produit comme effet, c'est que les transferts de joueurs s'accroissent énormément, mais aussi éventuellement les transferts de dirigeants. Donc finalement, les supporters se sont retrouvés quelque part comme les derniers bastions locaux finalement du club, et ils se sont construits, notamment les groupes ultras, mais pas seulement, sur cette position-là. Donc de dire, les supporters sont un élément du club, notamment parce qu'ils sont les garants de l'histoire, de la tradition du club. On le voit à Nantes, où c'est une situation caricaturale, puis c'est un conflit avec le président Kita, mais où ils vont revendiquer l'héritage du jeu à la nantaise, l'héritage d'une certaine vision du football. Et donc ça, oui, les ultras sont très fortement emparés de ce rôle-là, qu'on retrouve souvent dans leur slogan, où ils opposent le football business qui aurait émergé à la fin des années 90, et ce qu'ils revendiquent comme étant un football populaire, avec ceci, à ceci près, qu'il faut noter quand même que les ultras sont très adaptés au football spectaculaire qui s'est développé depuis les années 90, puisque eux-mêmes créent le spectacle en tribune.
Dans ce nouveau football, Nicolas Ourcade, on a donc ces défenseurs de l'identité, du territoire, on a ces clubs qui appartiennent à parfois des conglomérats, à des présidents ou à des propriétaires qui sont à l'autre bout du monde. Est-ce que ça n'a pas donné trop d'importance aussi aux ultras? C'est ce qu'on nous remonte parfois, nous les journalistes, on nous dit vous donnez trop d'importance aux ultras, même s'ils sont les derniers acteurs, en l'occurrence de défenseurs du territoire. Est-ce qu'ils peuvent outrepasser leurs droits?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les ultras, comme ils sont des militants, comme on l'a dit, sont très impliqués, très visibles, très revendicatifs. Donc, quand on est sociologue ou journaliste, le plus évident, c'est d'aller vers cet interlocuteur-là, puisqu'il développe un point de vue sur le football. La difficulté, c'est de voir que d'autres supporters vont avoir d'autres manières de penser le football. Et ça a été flagrant au moment du projet de Super League, bon, qui est revenu récemment, mais où on a vu que les promoteurs de la Super League disaient qu'ils faisaient ça pour les supporters, puisque, en gros, tout le monde allait pouvoir, à l'échelle mondiale, suivre tous les passionnés de football allaient pouvoir voir les meilleures affiches. Et à ça se sont opposés un certain nombre de groupes de supporters, des ultras, mais pas seulement, hein, beaucoup d'associations de supporters anglaises, qui ont dit non, nous on veut être attachés à certaines traditions du football, à une certaine histoire de ce sport. Donc, à certains moments, les ultras peuvent s'agréger avec d'autres gens qui ont la même vision du football qu'eux. À d'autres moments, ils peuvent aussi être en opposition à eux, à l'échelle d'une ville. Ben, parfois, les différents groupes de supporters sont d'accord, parfois ils sont en opposition. Et plus fondamentalement sur la question du pouvoir des ultras, ce qui est flagrant sur ces dernières années, c'est qu'aujourd'hui le fait que les supporters en général sont le 12e homme à un acteur du football, c'est admis par tout le monde. Même la loi française l'a intégré en 2016 en disant que les supporters sont un acteur du sport. Sauf que ce qui n'est pas clair, c'est exactement le rôle de ces acteurs. Qu'est-ce que peuvent faire les associations de supporters, quels sont leurs droits, jusqu'où ils vont, etc. C'est une thématique qu'avec d'autres collègues, on avait essayé de développer en disant que effectivement, les supporters ont des droits, mais il faudrait aussi définir leurs devoirs et leurs responsabilités pour ça, qu'on sache exactement quel rôle ils peuvent jouer dans le club et pour faire en sorte que les relations avec les autres acteurs soient les plus saines possibles.
Alors c'est vrai que vous avez fait allusion à la loi arrivée de 2016 qui avait créé d'ailleurs l'instance nationale du supporterisme à laquelle vous appartenez. Qu'est-ce que cette loi-là, elle a permis? On a le sentiment qu'elle a à la fois légitimé le mouvement ultra quelque part, et qu'est-ce qu'il manque en tous les cas pour aller plus loin ou pour pacifier les relations entre parfois les supporters et les clubs qui sont ou qu'est-ce qu'elle a mis en place aussi pour réguler ces relations-là?
Alors la loi de 2016, qu'on peut appeler l'arrivée du nom du député des Républicains ou Braillard du nom du secrétaire d'État de l'époque, en fait un peu les deux, c'est une loi qui au départ devait renforcer encore les mesures permettant de réprimer les comportements violents en étendant la durée des interdictions administratives de stade, celles qui sont prononcées par les préfets, et en permettant aux clubs d'interdire eux-mêmes de stade leurs supporters. Et d'une part dans un souci d'équilibre et d'autre part en cherchant à s'inspirer d'expériences étrangères, notamment allemandes, les acteurs politiques français ont souhaité aussi développer un volet préventif avec d'une part au niveau national une instance nationale du supporterisme qui met tout le monde autour de la table pour échanger sur les questions liées aux supporters, donc tous les acteurs publics, acteurs sportifs, clubs, associations de supporters, etc. et à l'échelle locale, obliger les clubs à avoir ce qu'on appelle un référent supporter, donc un salarié du club qui est en charge de la relation entre le club et ses supporters. Et donc cette année 2016, elle marque une inflexion dans la politique française parce que de gestion du supporterisme. Parce que en fait, dans les années 90, c'est là qu'on a la première grosse loi sur la sécurité des manifestations sportives. La France reprend certains préceptes qui ont été appliqués dans d'autres pays, notamment la création des interdictions de stade, mais elle ne construit pas à ce moment-là une vraie politique de gestion du supporterisme, contrairement à ce que peuvent faire les Anglais et les Allemands dans les années 90. À la création de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme en 2009-2010, qui est une année qui est marquée par deux morts, un supporter toulousain à Belgrade et un supporter parisien dans des affrontements entre bandes rivales parisiennes, la DNLH va être la courroie de transmission d'une politique qui se veut une politique de tolérance zéro. C'est là qu'il y a eu le plan Le Pro à Paris pour interdire les associations de supporters et écarter de stade les hooligans, et qu'il y a eu aussi les premières interdictions de déplacement de l'ensemble des supporters visiteurs. Et en 2016, la loi qu'on évoquait tout à l'heure, elle vient pour essayer un peu d'équilibrer les choses et de dire, bon, c'est important d'avoir un axe répressif, mais il faut aussi un axe préventif, parce que ça permet d'anticiper les problèmes, de résoudre tout un ensemble de situations et de permettre la bonne intégration des supporters dans le monde du foot. Le problème, c'est que depuis, la France est un peu tiraillée, elle ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce qu'elle s'axe sur une politique vraiment de tolérance zéro ou est-ce qu'elle essaye d'articuler répression et prévention? Et pour l'instant, on n'a pas de vision très claire. Et pour prendre un exemple très concret, en octobre, le ministère de l'Intérieur écrit au préfet en disant qu'il faut limiter au maximum les interdictions de déplacement et qu'il faut le faire quand c'est justifié, après avoir bien préparé et organisé le match. Et en décembre, on va interdire les supporters de Séville à quelques centaines pour venir à un match à Lens au dernier moment, ce qui a créé tout un ensemble de troubles diplomatiques et autres. Donc on voit qu'il n'y a pas vraiment de constance. Et c'est ça qu'il faudrait que la France arrive à créer sur la séquence actuelle, qu'elle se crée une politique un peu claire pour savoir exactement où elle veut aller.
On a souvent dénoncé ici cette inconstance et on a même plutôt parlé d'incompétence de la part des autorités sur le sujet qui réagissaient médiatiquement à un fait qui faisait suffisamment de bruit pour que les politiques de plus haut niveau s'en saisissent et tapent du poing sur la table sans essayer de comprendre ce qui se passait. Est-ce que c'est votre analyse aussi ?
Alors ça dépend des périodes, c'est-à-dire que sur la période 1900, les années 90 jusqu'aux années 2010, globalement oui, c'est-à-dire quand il y a des incidents, médiatiquement, ça fait une affaire, les politiques s'en saisissent, il y a quelques lois qui sont passées, on tape du tambour en disant qu'on va être plus répressif, on l'est un peu, notamment côté parisien, et puis ensuite ça s'oublie un peu, il n'y a pas vraiment de choses qui se mettent en place. Au début des années 2010, il y a eu vraiment la volonté de créer une politique de tolérance zéro, mais une politique très très particulière et très différente des pays étrangers. En gros, l'Angleterre et l'Allemagne ont des styles très différents. L'un des piliers qui leur ont permis de lutter contre le hooliganisme à la fin du XXe siècle, c'est les interdictions individuelles de stade. Et finalement, en France, on a plutôt utilisé un autre levier qui sont des mesures collectives. On va interdire de déplacement l'ensemble des supporters d'un club, ce qui se fait quasiment jamais en Angleterre ou en Allemagne. On va fermer des tribunes ou un stade entier suite à des incidents ou même l'allumage d'engins pyrotechniques, ce qui se fait quasiment jamais en Allemagne et qui se fait pas en Angleterre. Et finalement, ces mesures-là collectives, elles ont l'avantage de symboliquement être fortes, mais en fait, elles sont pas très efficaces et elles présentent des effets pervers parce que finalement, elles sanctionnent de la même manière les gens qui ont commis des actes répréhensibles et ceux qui n'en ont rien fait. Et finalement, une fois que la sanction est finie, tout le monde revient au stade. Et l'enjeu sur la période actuelle, le premier enjeu, c'est d'identifier les fauteurs de troubles et qu'être capable de les interdire de stade individuellement. C'est vraiment un levier important. Et ensuite, l'autre levier de mon point de vue, c'est par l'organisation et donc pour tout un travail préventif, une bonne organisation des matchs, être capable d'avoir des routines suffisamment précises pour faire en sorte que les supporters puissent se déplacer dans de bonnes conditions et qu'on réserve les interdictions de déplacement à des matchs où on sait que c'est extrêmement dangereux. Par exemple, s'il y a à nouveau un Marseille-Lyon bientôt en Coupe de France, on pourrait tout à fait comprendre que les supporters lyonnais soient interdits étant donné les incidents du mois d'octobre.
Qu'est-ce qui empêche en France en fait, qu'on développe l'identification des fauteurs de troubles et les sanctions individuelles en fait ? Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui revient souvent, y compris chez les supporters eux-mêmes d'ailleurs. C'est une faiblesse politique, en tous les cas, une paresse du pouvoir politique?
Il y a deux choses. Historiquement, le football est un enjeu moins important en France qu'en Angleterre ou en Allemagne. Dans ces pays-là, quand ils ont été confrontés à beaucoup de violences et de racisme dans les années 80-90, ils avaient aussi la volonté de préserver la passion pour le football. Et donc, interdire les supporters d'assister au match à l'extérieur, par exemple, alors que certains d'entre eux n'ont rien fait, c'était pas vraiment une option, parce que pouvoir suivre son équipe était considéré comme quelque chose d'important. En France, vu que la passion pour le football, même si le regard qui a été porté dessus a beaucoup changé depuis notamment la Coupe du Monde 98, c'est pas considéré comme un enjeu majeur. Interdire des gens de se déplacer, finalement, même si on l'interdit 2-3 jours avant, ça choque essentiellement les gens qui voient les coûts financiers que ça peut engendrer pour les personnes, les atteintes aux libertés, mais ça choque pas énormément. Donc il y a déjà cette différence-là. Et puis ensuite, faut être lucide, hein, c'est plus simple de faire des mesures collectives que des mesures individuelles, parce que faire des mesures individuelles, ça a un coût en temps et en argent. Ça suppose que la police fasse un travail d'identification, qu'ensuite la justice juge les gens et les écarte des stades. Donc c'est un peu une solution de facilité, si vous voulez, les mesures collectives. Mais j'ai l'impression, sur la période très récente, que vraiment les autorités françaises ont compris la nécessité d'aller sur une identification forte des fauteurs de troubles pour les écarter des stades.
Elles ont sans doute compris aussi que ça fonctionnait pas. Et ça, on l'a constaté et dénoncé ici depuis quand même plusieurs années. Passons à cette question de la violence dans les stades. On le disait en introduction, les ultras sont souvent montrés du doigt par les autorités, par certains médias, par le grand public aussi, à juste titre ou pas. Qu'est-ce qui différencie concrètement les hooligans dont vous avez parlé des ultras et des autres supporters? Il y a eu plusieurs faits de violence là depuis le Covid. Est-ce que la séquence est importante ou est-ce qu'elle est sous l'effet du zoom médiatique? Et est-ce qu'elle est singulière? Et est-ce qu'elle est propre à la France?
Ça fait beaucoup de questions, je vais essayer de les prendre.
C'est parti, sur la violence et sur les ultras.
Ouais. En fait, le problème du terme hooligan, c'est que c'est un terme qui est perçu de différentes manières selon les gens qui en parlent. Pour le grand public, les hooligans, c'est l'ensemble des supporters violents. Donc quand on parle de hooliganisme, on parle de tous les faits de violence. Donc qu'un individu lambda jette un projectile sur un gardien de but, que des groupes de supporters s'affrontent à proximité du stade ou que d'autres groupes de supporters se donnent rendez-vous à 50 km du stade un jour où il n'y a pas de match, pour beaucoup de gens c'est la même chose, ils appellent ça hooliganisme. Nous en tant que sociologues, on essaye de montrer qu'il y a différents types d'incidents et que c'est important de les distinguer. Et il y a aussi différents types d'acteurs. En fait, les ultras sont des groupes de supporters qui peuvent être violents. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus, ça fait partie de leur répertoire d'action. Ceci dit, le rapport à la violence n'est pas le même que celui de ceux qui se définissent eux-mêmes comme hooligans. C'est-à-dire que dans le milieu des supporters les plus engagés, être hooligan, c'est être membre d'une bande qui cherche à se battre de manière récurrente. Qui ne se reconnaît pas dans les groupes ultra, par exemple. Et donc ça, il y en a quelques-unes en France. Le foyer le plus important, c'était à Paris dans les années 80, 90, 2000. Mais c'est un style de supporterisme qui est moins répandu en France que dans d'autres pays européens. La différence entre ultra et hooligan, c'est d'abord, les hooligans, c'est des bandes informelles. Les ultras, c'est des associations, soit par la loi, soit de fait. Le rapport au foot des ultras est beaucoup plus étroit que celui des hooligans, puisque certains bandes de hooligans se battent indépendamment du match. Et le rapport à la violence est complètement différent, en ce sens que les hooligans assument totalement leur passion pour la violence, ils ont un rapport totalement offensif, ils cherchent la violence. Quand on est journaliste ou sociologue, la difficulté, c'est qu'un hooligan accepte de nous parler. Une fois qu'il nous parle, il parle de violence, puisque c'est son trip à lui. Pour les ultras, le rapport à la violence est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus ambigu. C'est-à-dire que d'un côté, ça fait partie de leur monde, puisque c'est une compétition avec les autres groupes, et ça peut être un moyen de trancher les conflits, mais en même temps, si la violence est trop fréquente, ça les déconsidère en tant que supporters. Et donc, d'un côté, ils entretiennent la violence puisqu'ils sont en compétition avec d'autres groupes. Et en même temps, ils essayent de la limiter parce que s'il y en a trop souvent, le fait qu'ils soient des interlocuteurs, cette violence peut leur porter préjudice. Et donc, il y a une ambiguïté très forte des ultras qui ont un rapport un peu défensif à la violence. Quand vous discutez avec des ultras, quand ils ont été violents, c'est toujours en réponse à quelque chose. Il y a toujours une justification qui explique que, si je prends leurs mots, ils ont été obligés de se battre. Et donc, on a entre ultras et hooligans, des rapports à la violence qui sont significativement différents, oui.
Parmi les ultras, d'ailleurs, est-ce qu'il y a certains au sein des groupes qui sont totalement non-violents et qui voudraient amener un groupe, l'association, à être totalement non-violente et d'autres qui ont l'opinion inverse?
Ah oui, très clairement. moi je pense souvent un peu la même figure, c'est de dire que chez les ultras, la violence, elle est à la fois marginale et centrale. Elle est marginale parce que la majeure partie des membres du groupe sont jamais violents, en fait. Alors, ils sont violents verbalement, mais ils sont jamais violents physiquement. Quand vous avez des groupes de milliers d'adhérents à Marseille, à Lyon, la plupart des adhérents ne passent jamais à la violence et n'ont aucune envie de le faire. En revanche, et puis elle est marginale aussi parce qu'elle est finalement très peu fréquente par rapport aux hooligans qui la recherchent de manière systématique, les ultras c'est pas le cas, mais elle est quand même centrale et c'est pour ça que ça suscite des débats internes au sein des groupes, c'est que pour l'instant elle peut pas être récusée, c'est-à-dire que pour les ultras ça fait partie de leur dimension radicale, de leur opposition au système comme certains vont dire, du fait que pour trancher les conflits c'est quand même le meilleur moyen de savoir qui est le plus fort, et donc vous avez dans tous les groupes des courants différents, certains qui vont dire il faut qu'on limite au maximum la violence parce que soit nous, on n'aime pas ça personnellement, soit on trouve que ça nous discrédite, et d'autres qui disent non, on est dans une démarche radicale. Donc vous avez des évolutions comme ça, des groupes qui, selon les périodes et selon les leaders, vont être plus ou moins portés sur la violence. Ouais.
On entend parler parfois de, c'est le terme qu'on entend, de fight. Ça concerne les ultras quand on parle de fight, vraiment ?
Alors la plupart du temps, non. En fait, les fights, c'est le nom que les hooligans donnent à leur bagarre arrangée. En fait, ils décident de se retrouver loin des stades pour pouvoir se battre sans être entravés par la police. En fait, l'histoire du hooliganisme, pour bien comprendre, au départ, les hooligans, c'est des supporters de foot, mais qui défendent leur territoire de manière très violente et qui, à l'extérieur, cherchent à prendre le territoire de l'autre. Donc, au départ, les incidents entre hooligans anglais, ils sont dans le stade. Et puis, les stades sont sécurisés, ils sont aux abords du stade. Et puis, les abords du stade sont sécurisés, ils s'éloignent progressivement. Et ce qui se passe à partir de la fin du XXe siècle, c'est que finalement ceux qui veulent vraiment se battre dans une logique de confrontation entre hooligans, ils doivent s'éloigner de plus en plus des stades, et donc vont arriver dans ces bandes de hooligans des gens qui sont finalement pas forcément intéressés par le foot, mais par le fait d'avoir un sport collectif de combat. Donc les fights, c'est les bagarres arrangées entre hooligans dans des forêts, dans des zones industrielles, et ça concerne généralement pas les ultras qui disent nous on n'organise pas la violence, si on rencontre le groupe adverse éventuellement on va se confronter, mais la plupart des groupes ultras refusent ces bagarres arrangées qui sont appelées fight par les hooligans.
Mais qu'en est-il de la politisation des tribunes et des groupes ultras en France ? Parce que vous évoquiez l'Italie où on sait qu'il y avait des mouvances d'extrême droite. À Lyon, quand il y a eu les incidents à Marseille, il y a des supporters lyonnais dans le parquage adverse qui ont fait des signes nazis. Qu'en est-il de cette politisation dans les tribunes en France en général ?
Alors sur la période actuelle, si on parle d'abord des bandes de hooligans, puisque c'est de ça dont on parlait précédemment, parmi les hooligans aujourd'hui en France, il y a une tendance d'extrême droite qui est très forte. C'est-à-dire tous les hooligans ne sont pas d'extrême droite, mais la plupart des bandes hooligans actives aujourd'hui en France sont ouvertement nationalistes, identitaires, de l'extrême droite la plus radicale. Dans les groupes ultra, comme toujours, c'est beaucoup plus compliqué. Dans les années 90, les groupes ultra ont pris conscience que utiliser certains slogans ou lancer certains chants qu'ils utilisaient pour déstabiliser l'adversaire, par exemple faire des cris de singe ou des choses comme ça qui jouaient sur des ressorts racistes, c'était plus acceptable. D'abord, ça a été combattu par les autorités, mais aussi parce qu'ils se sont rendus compte que si vous voulez se distinguer des hooligans et des gens violents, ils ne pouvaient pas utiliser des choses qui étaient comme ça, si clairement connotées. Et donc, dans les années 90, la plupart des groupes ultra ont dit on est apolitique, donc on accepte tout le monde, quelle que soit sa couleur politique, et on fait pas de politique. Ou carrément, on est antiraciste parce qu'on veut se distinguer de l'image des hooligans fachos qui nous collent à la peau. Donc aujourd'hui, parmi les groupes ultra, on a des groupes apolitiques et antiraciste massivement, mais parmi les groupes apolitiques, il y a deux situations. Il y a les groupes qui sont vraiment apolitiques, où il y a de tout, et il y a des groupes où ils se disent apolitiques, bien que à l'intérieur, il y ait un noyau minoritaire en nombre, mais souvent important en influence, qui partage des idées nationalistes, qui peuvent pas être totalement, complètement affichées, sinon le groupe serait discrédité en tant qu'association de supporters. Donc, les bandes de hooligans d'extrême droite, c'est très clair, c'est affirmé. Dans les groupes ultra, il faut faire attention. Il y a certains groupes qui sont très hostiles à ces tendances-là et d'autres groupes dans lesquels il peut y avoir des noyaux d'extrême droite assez importants, ce qui n'est pas neutre à un moment où des milliers de jeunes et de moins jeunes fréquentent ces tribunes.
Vous disiez que la violence chez les ultras, elle est marginale et centrale, et pourtant dans l'espace médiatique, on a le sentiment qu'elle prend de plus en plus de place. Enfin, qu'est-ce que ça dit de nous en fait ? Est-ce que ça dépend du traitement des médias, ou est-ce que c'est plutôt un refus en tous les cas de la société de ces violences-là ? Qu'est-ce que ça dit aujourd'hui ? Est-ce qu'elles sont plus importantes là depuis le Covid en tous les cas ? Qu'est-ce qu'on observe ?
Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que le monde du football est beaucoup plus embêté par les débordements des ultras que par les débordements des hooligans, parce que les débordements des hooligans, finalement, à part les initiés, personne ne les voit, puisqu'ils ont lieu loin des stades. La spécificité des ultras, c'est que quand ils créent des incidents, ils les créent dans le stade ou aux abords immédiats, donc ils sont vus. Et les incidents que les ultras peuvent créer sont des choses très différentes. Ça peut être des violences physiques, ça peut être des jets de projectiles, ça peut être aussi un usage massif de pyrotechnie, ça peut être aussi une opposition frontale à un dirigeant de club par des banderoles, voire des actions plus violentes comme quand les ultras marseillais ont attaqué la commanderie. Donc si on se centre sur les ultras, c'est parce que c'est des acteurs qui, de manière la plus visible, utilisent la violence. Ensuite, il y a aussi une évolution du regard qui fait que ça fait maintenant, en gros depuis les années 80, que l'ensemble de l'Europe est sensibilisée aux questions de la violence des supporters, suite notamment au drame du Heysel qui fait 39 morts en direct à la télé avant une finale Liverpool-Juventus de Turin dans le stade du Heysel à Bruxelles, où là tout le monde voit qu'il y a un problème lié au hooliganisme. Et aujourd'hui, quand on est 40-50 ans après, ça pose problème qu'un certain nombre d'incidents se renouvellent. Donc il y a aussi un effet phénomène de lassitude et de volonté que les problèmes puissent être résorbés. Et il y a aussi une intolérance plus forte à la violence physique aujourd'hui que dans les années 90. Parce que quand on dit que la violence a augmenté, pour ceux qui ont vécu les stades dans les années 90, notamment autour du Parc des Princes, c'était quand même des violences beaucoup plus fortes. Ensuite, il y a une dimension très très spécifique de la période post-Covid. Quand le public est revenu dans les stades après le confinement, effectivement, là, on a eu un pic d'incidents très net dans toute l'Europe. Ça a semblé s'être tassé, et là, aujourd'hui, on est dans des interrogations autour de l'évolution de la violence des supporters européens, parce que en Suisse, en Belgique, en Allemagne, il y a eu des débats récemment sur les débordements des supporters. Est-ce qu'on est encore sur une conjoncture un peu post-Covid où quand on revient dans les stades, il y a beaucoup plus d'excitation qu'avant, des dispositifs organisationnels sont moins bons et donc il y a conjoncturellement un peu plus d'incidents? Ou est-ce que c'est simplement qu'il n'y a pas plus d'incidents, mais il y en a certains qui sont très marquants, comme avec la mort du supporter à Nantes? Donc est-ce qu'on est dans un phénomène conjoncturel, ou est-ce que structurellement on va aller vers plus de violence des groupes de supporters, notamment ultra? C'est un peu trop tôt pour le dire, mais en tout cas il y a une préoccupation là-dessus de savoir comment les choses vont évoluer.
Sur cette dernière séquence d'ailleurs, on l'a remarqué, alors c'est vrai que les violences à chaque fois ont cristallisé l'attention médiatique, souvent on a pointé du doigt les ultras, mais sur la dernière séquence on a aussi observé que les violences n'étaient pas toujours, en tous les cas, l'œuvre d'ultra. Enfin, je pense notamment au match Montpellier-Clermont, je pense aussi aux accusations de racisme à Nancy, je pense au match OM-Lyon dont les incidents sont déroulés en dehors du stade et en tous les cas ont été condamnés notamment par certains groupes ultra à Marseille. Qu'est-ce que ça dit, ces incidents-là, qu'est-ce qu'ils disent des tribunes aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont davantage sous tension qu'avant?
Ce qui est certain, c'est que les incidents ne sont pas toujours le fait des groupes ultra. Montpellier-Clermont, le pétard vient de la tribune des ultras, mais c'est pas un membre des groupes, et les groupes s'en désolidarisent. Il y a eu des insultes racistes dans différents stades qui ont été prononcées par des individus en tribune latérale. Il y a eu des jets de projectiles aussi sur certains joueurs à Montpellier OM en 2021 qui viennent pas des tribunes ultra. Donc la violence, elle n'est pas uniquement concentrée dans les tribunes d'ultra. Et il y a aussi une spécificité, celle du football par rapport aux autres sports. En fait, le football s'est construit depuis les années 60, depuis que des groupes de supporters en Angleterre puis en Italie sont devenus violents de manière récurrente autour des matchs de football, autour d'une stratégie d'opposition verbale et physique entre supporters. Donc les stades de football sont aujourd'hui assez différents des stades de rugby, de hand ou de basket, non pas par la nature même du sport, puisque dans les années 20-30, ce qui inquiète le public ou les médias, c'est plus la violence des supporters de rugby, ou enfin leur caractère incontrôlé, c'est la manière dont ce sport a évolué, le fait qu'il soit devenu le plus populaire et qu'une tradition de violence de certains groupes de supporters se soit implantée à partir des années 60. Et donc on a l'impression, très clairement, que le stade de football est un endroit où on va se permettre un certain nombre d'insultes, de comportements excessifs, et ça questionne en fait le statut du stade. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a accepté que le stade soit, notamment le stade de football, soit une sorte d'exutoire, un endroit où on peut, de manière relativement contrôlée, faire des choses qu'on ne ferait pas ailleurs. Et dans la période récente, notamment depuis les années 2010, il y a la volonté de présenter le stade comme un espace finalement parfait qui renverrait à la société l'image de ce que devrait être une société idéale, notamment une société sans discrimination, etc. Donc il y a une tension finalement du statut du stade qui fait que pour certains c'est un exutoire et ça l'est encore plus dans cette période, il me semble, enfin ça mérite d'être confirmé par le temps, mais on a le sentiment que c'est encore plus un exutoire pour certains depuis la fin du confinement, à une époque où on voudrait que le stade soit encore, qu'il lave encore plus blanc que blanc finalement que la société. Et donc ça explique aussi pourquoi on est si attentif aux incidents, c'est parce que de fait il y a sans doute plus de dérapages de certains, mais aussi parce qu'on est beaucoup plus sensible à ça qu'on ne l'était il y a 20 ou 30 ans.
Il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites, on l'a vu sur la dernière séquence, notamment avec les moratoires des interdictions de déplacement. La plupart ont été cassées, en tous les cas celles qui ont été contestées ont été cassées. Est-ce que la gestion des supporters de foot devient un enjeu pour demain au regard de ce qui s'est passé sur la dernière séquence?
J'espère. C'est-à-dire que si ça devient véritablement un enjeu, ça va obliger à avoir des politiques et des politiques qui soient cohérentes. Alors c'est déjà devenu un enjeu. Si vous vous amusez, je l'ai fait, je vous le déconseille parce que c'est un peu fatigant, mais de regarder les débats parlementaires sur les différentes lois qui concernent les supporters. Dans les années 90-2000, début des années 2010, le niveau de débat est relativement faible. C'est un sujet qui est très mal connu. On a l'impression que les supporters violents, c'est des gens très dangereux et qu'on peut prendre n'importe quelle mesure. Depuis la loi de 2016 que vous avez évoquée, et puis là sur la loi des Jeux Olympiques, on voit qu'il y a des véritables débats sur comment il faudrait traiter les supporters, comment il faudrait organiser les matchs. Et j'ai l'impression, oui, que c'est en train de devenir un enjeu. Là, à très court terme, puisqu'on a changé de Premier ministre, on ne sait pas encore si on va rester avec les mêmes ministres au sport, à l'intérieur et à la justice, sachant qu'ils avaient enclenché un processus de gestion des déplacements de supporters. On est un peu en stand-by pour savoir ce que ça va donner. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est au clair sur le fait que l'enjeu, c'est, outre le fait d'identifier les fauteurs de troubles et de les écarter de stade, c'est d'être capable de bien organiser un déplacement. Donc de s'y prendre suffisamment à l'avance, que tout le monde joue le jeu, les associations de supporters, le club local, le club visiteur, pour qu'on puisse savoir exactement quel va être le déplacement, pour que les autorités locales puissent mettre en place le dispositif adapté et que si elles doivent interdire ou restreindre le déplacement, elles puissent le faire 2-3 semaines avant et pas 2-3 jours avant. Donc ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce que ça réussira à se mettre en place et d'une manière cohérente et sur le long terme? Ça, je peux pas dire parce que j'avais l'impression à la fin des années 2010 qu'on s'enclenchait dans cette dynamique-là. Mais avec la crise sanitaire, les habitudes qu'on était en train de prendre en 2019, juste avant le Covid, elles ont très vite disparu. Donc cette continuité de l'action publique, je l'appelle de mes voeux, mais je ne sais pas si elle va pouvoir se développer dans les prochains mois.
Ouais, on a le sentiment qu'on est toujours en France entre une hésitation entre une politique de répression à l'anglaise et de prévention à l'allemande. Et est-ce qu'on peut imaginer des tribunes sans ultra? Est-ce qu'il y a une tentation des instances? Est-ce qu'elle existe?
Ah oui, la tentation existe très clairement, et puis il y a une expérience, c'est ce que le PSG a fait entre 2010 et 2016. Le problème, c'est que...
Il y avait une belle fanfare au Parc des Princes, d'ailleurs, pour essayer de mettre un peu d'ambiance à l'époque.
Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que ça pose tout un ensemble de difficultés. Si vous voulez, par rapport aux ultras, il y a deux logiques possibles. Soit vous considérez que comme ils créent parfois des incidents, vous écartez tous les ultras et vous aurez plus d'incidents. Sauf que d'une part, on a vu qu'il n'y avait pas que les ultras qui créaient des incidents et que d'autre part, parmi les ultras, il y en avait beaucoup qui n'en créaient pas. Deuxième attitude, c'est de dire parmi les ultras, il y a aussi plein de choses qui peuvent être intéressantes pour le football. Il y a des choses qui sont problématiques. Comment limiter les choses problématiques? Et donc, soit on écarte les ultras, soit on essaye de les garder, mais en faisant en sorte qu'ils développent les comportements positifs et qu'ils restreignent au maximum les comportements négatifs. Pour plein de raisons, je pense que la deuxième option est plus viable. Ne serait-ce que parce qu'à Paris, pour qu'on écarte tous les groupes de supporters, il a fallu qu'on ait des années de violence extrême, qu'on ait deux morts en 2006 et en 2010, des bagarres rangées récurrentes. On était à un niveau de violence qu'aucun autre club français, heureusement, n'a connu depuis, quoi, ou n'a jamais connu. Ce qui s'est passé entre 2010 et 2016, c'est que le PSG s'est retrouvé dans une situation un peu particulière. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à augmenter le prix des places et à écarter les groupes de supporters tout en remplissant leur stade. Ce qui déjà n'était possible que parce qu'ils avaient des stars sur le terrain et parce qu'ils étaient sur un bassin de population à fort pouvoir d'achat. On ne peut pas faire la même chose à Marseille. Hein. On ne peut pas augmenter par 2, 3, 4 le prix des places sans joueurs de haut niveau à mettre sur le terrain, ça ne marchera pas. Donc ils ont pu faire ça, mais ils se sont retrouvés face à un problème, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'ambiance, les joueurs s'en plaignaient, mais le Qatar s'en plaignait aussi, c'est-à-dire qu'ils vendaient l'image qu'ils étaient propriétaires d'un club qui suscite de la passion, sauf que quand on regardait les matchs, il n'y avait pas de passion du tout.
Non, mais il y avait des petits fours à la mi-temps, ce qui est quand même le principal dans un stade.
Il y en a toujours, mais ce que le Qatar a voulu faire en faisant revenir les ultras en 2016, c'est de dire, voilà, on a besoin d'ambiance, on a besoin de passion, on a besoin d'ultra, et on va essayer de créer un cadre où ces ultras peuvent s'exprimer, sans qu'on revienne aux situations de violence et de racisme des années 90-2000. Jusqu'ici, bon an, mal an, le PSG a à peu près réussi. On voit que c'est compliqué, hein, parce qu'il y a des franges contestataires de certains ultras qui veulent pas rentrer dans le cadre, mais le PSG a à peu près réussi à avoir une tribune ultra qui met de l'ambiance et qui met de la passion, tout en ayant une politique très répressive vis-à-vis ceux qui voudraient faire la même chose dans la tribune d'en face, en tribune Boulogne, et tout en développant toute une stratégie de siège VIP, etc. Donc le PSG, après avoir tenté une politique à l'anglaise, on fait asseoir tout le monde, il n'y a plus trop d'ambiance, a essayé de mettre en place une politique à l'allemande, où on garde des supporters debout derrière les buts, tout en ayant différents espaces dans le stade avec différents types de publics, un public familial, un public entreprise, un public VIP, voilà. C'est un peu la voie que le foot français essaye de faire. Mais comment je garde un peu des ultras, puisqu'on en a besoin en tant que 12e homme et en tant qu'animation, parce que finalement les gens vont aussi au stade pour l'ambiance que les ultras apportent.
Ça, c'est acquis aujourd'hui, parce qu'on a le sentiment que des fois ça pourrait se heurter au rêve du stade idéalisé.
C'est-à-dire que c'est acquis, non, c'est pas acquis. C'est-à-dire que s'il y a régulièrement des incidents, il y aura l'envie d'écarter les ultras des stades, et c'est pour ça que la question de la responsabilisation des ultras est eux-mêmes est une question centrale. Mais écarter les ultras des stades, c'est pas si évident, parce que il faut des bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il y a des individus violents qu'on va trouver des raisons de les écarter des stades, puisqu'ils sont, ils ont commis des actes répréhensibles. Mais écarter l'ensemble d'une association dont 95% n'a rien fait, c'est moins évident. Et
c'est pas facile d'en faire des sous-citoyens, hein, les ultras. Hein. Certains aimeraient, mais c'est difficile.
Oui, et puis ça pose aussi tout un ensemble de problèmes, parce qu'aujourd'hui, le football est construit comme un spectacle, et les ultras, ils ont su se rendre indispensables parce qu'ils apportent ce spectacle en tribune, comme on disait tout à l'heure. Et c'est pour ça que le PSG pouvait pas se passer de ce soutien, les joueurs s'en plaignaient, et de ce spectacle des tribunes, parce que finalement, ils vendaient pas le produit qu'ils avaient promis.
Et est-ce que ça permet...
La Ligue s'en sert aussi, des images d'ultra, d'animation, la Ligue de foot. Il n'y a pas que les clubs.
Oui, tout le monde... En fait, le problème des ultras, c'est que c'est à la fois les meilleurs et les plus mauvais supporters aux yeux des autorités du football. Les meilleurs, parce que c'est eux qui produisent des ambiances incroyables, des images qu'on va pouvoir vendre, sur lesquelles on va pouvoir vendre la ferveur. Mais en même temps, ils utilisent des engins pyrotechniques que les autorités voudraient interdire. Ils sont critiques par rapport à la politique du club, on le voit à Nantes, ou aux transformations du football. Ils n'hésitent pas à critiquer la Ligue de football professionnelle, et parfois, ils sont violents. Donc, les autorités, elles sont un peu embêtées. Elles voudraient les aspects positifs des ultras sans les aspects négatifs. Donc, soit on enlève tout ce que le PSG a fait, mais on perd les aspects positifs, soit on réussit à garder les aspects positifs en petit à petit diminuant les aspects négatifs et le plus rapidement possible, si possible.
Est-ce que ça permet pas aussi de les garder quelque part sous contrôle, d'avoir des groupes identifiés, ou même si on sait qu'il y a des débordements, on sait que ça se passe dans telle tribune, dans tel groupe, que si on les... il y a une dissolution, ils pourront se recréer de toute façon ailleurs, dans d'autres groupes qui seront peut-être moins contrôlés. Parce que c'est vrai que c'est ce que vous disiez, sur les groupes ultra, c'est quand même très hiérarchisé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, quelque part, une autogestion, un autocontrôle général des débordements et des fauteurs de troubles?
Alors déjà, il faut voir que si on regarde sur les dissolutions de grands groupes ultra, la principale dissolution d'un grand groupe ultra, c'est celle de la Brigade Sud de Nice. Est-ce que ça a changé grand-chose à la situation niçoise? La réponse est claire, non. Ça n'a pas changé grand-chose. Ils s'appellent Ultra Populaire Sud, ils ont gardé leur logo, ils continuent à s'appeler Brigade Sud, et ça finalement n'a rien changé. Donc ça montre que la solution n'est pas forcément efficace, puisque les gens peuvent continuer leur comportement sous un autre nom ou sous d'autres formes. Ensuite, il y a la question de l'autorégulation qui est fondamentale. Est-ce que il faut mieux dissoudre un groupe ultra parce que par certains moments, il peut, puisqu'il est en compétition avec d'autres groupes, engendrer la violence, ou est-ce qu'il faut tenir compte du fait que, puisqu'il a intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de violence, il est autorégulateur finalement et il limite fortement les violences. C'est compliqué et je pense qu'un des leviers, c'est de revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Au sein des groupes ultras, il y en a qui veulent limiter fortement les violences déjà. Et permettre à ce que cela puisse avoir des billes pour dire ben, cette position, finalement, elle est rentable pour le groupe parce que ben, on n'est plus interdit de déplacement, parce que on peut organiser nos chorégraphies comme il faut, parce qu'on est un interlocuteur, c'est un levier sur lequel agir. C'est-à-dire que si on interdit systématiquement les déplacements, ben, les groupes les plus radicaux dans les groupes ultras peuvent dire bon, ben, on s'en fout, de toute façon, puisqu'on est interdit, soyons violents, soyons radicaux, critiquons le système de, du football et le système social et allons dans une spirale de la violence. Si on crée quelque part un système où les ultras sont des partenaires, ce qui les amène à avoir des droits mais aussi un certain nombre de devoirs et de responsabilités, on peut espérer qu'ils se régulent fortement. Mais encore une fois, au risque de me répéter, enfin, l'enjeu principal, c'est que les individus qui ont commis des actes violents, si on arrive à les écarter des stades, on assainit quand même largement la situation. Et que ces individus soient dans un groupe ultra ou pas dans un groupe ultra, à la limite, ça n'a pas d'importance.
Le principal, c'est donc que les institutions prennent conscience de l'inefficacité des sanctions collectives, hein, si on vous écoute, et s'intéressent davantage aux sanctions individuelles pour sortir les mauvais moutons du troupeau. On a vu aussi le point de vue des clubs dans la gestion et au sein du mouvement ultra, Pab évoquait à l'instant ces indépendants qui sont dans les mouvements ultra, et si on casse ce groupe, eh bien, il y a des indépendants qui iront d'eux-mêmes faire ces déplacements et qui seront peut-être plus violents qu'encadrés par le groupe ultra. Mais au sein du groupe ultra, est-ce qu'on doit faire, là, après les faits de violence à Nantes par exemple, mais ailleurs aussi, un examen de conscience, et est-ce que ça peut redéfinir les choses aussi sur le rapport à la violence? Est-ce qu'on peut être ultra et condamner la violence? Je l'évoquais tout à l'heure, mais est-ce que des choses peuvent évoluer aussi?
De mon point de vue, c'est un souhait. Après, il faudra voir ce que le mouvement ultra sera capable de faire, sachant que c'est compliqué pour lui de condamner ouvertement la violence, puisque il s'est construit comme ayant la violence comme partie constitutive de cette manière d'être. Par contre, ce qu'on peut espérer, c'est voilà, qu'il la limite au maximum et qu'il condamne certaines dérives. Mais fondamentalement, si on veut améliorer la situation, il faut que tout le monde y mette du sien. C'est-à-dire qu'il faut que les autorités sportives et publiques agissent pour mieux organiser les matchs, que les clubs jouent leur rôle, mais aussi que les associations de supporters jouent leur rôle. Donc y a un slogan qui est très connu, c'est « Liberté pour les ultras ». Effectivement, ça peut être un slogan qu'on peut entendre, parce que comme vous l'avez dit, les ultras n'ont pas à être, et les supporters en général n'ont pas à être de sous-citoyens, mais ça implique aussi un certain nombre de responsabilités. Et donc ce qui est attendu dans la période qui est en train de s'ouvrir là, depuis décembre, c'est aussi qu'est-ce que les ultras ont à dire sur leur propre responsabilité et comment ils peuvent eux-mêmes limiter les incidents, sachant encore une fois que, comme vous l'avez dit, ils peuvent pas tout faire. C'est-à-dire qu'il y a des indépendants qui contrôlent pas forcément, il y a des violences qui interviennent en dehors d'eux, mais ils ont quand même une marge d'action conséquente. Et est-ce que le discours du mouvement ultra peut changer et être beaucoup plus insisté sur la responsabilisation, sur la limitation des incidents? Personnellement, je le souhaiterais. Est-ce que c'est dans cette voie-là que le mouvement ultra va s'engager? Je ne peux pas vous dire à l'instant T.
Mais c'est vrai que le problème, moi, je trouve, au niveau des mouvements ultra, et je ne sais pas si vous, en les étudiant, ça se reproduit régulièrement, c'est que justement, dans une société où tout le monde s'exprime, les politiques, les journalistes, n'importe qui, le mouvement ultra, lui, reste très silencieux par rapport aux incidents. Ben, on prend à Nantes, les supporters nantais, personne de parmi les ultras ne s'est exprimé après le drame qui s'est passé. Est-ce qu'il ne faudrait pas que eux prennent la parole aussi publiquement pour parler de ces événements-là?
Alors, j'aurais pas exactement le même point de vue, parce que de fait, aujourd'hui, les groupes ultras, si on sort du cas spécifique de la mort de Maxime à Nantes, hein, mais les ultras s'expriment beaucoup. On a eu, on l'évoquait tout à l'heure, des condamnations, par exemple, de certains responsables ultras, de l'attaque des bus des joueurs et des supporters par des indépendants à Marseille. Donc, il y a pu avoir aussi, de la part de l'Association nationale des supporters, des critiques publiques de certaines actions violentes. Donc, ça peut exister. Le cas de l'amende Maxime à Nantes est un peu particulier, puisqu'elle implique des gens qui sont ultra et des gens qui ne le sont pas, puisque ça a été, vous l'avez rappelé au début, un traumatisme pour l'ensemble du public nantais, mais d'abord pour la Brigade Loire et les proches de Maxime. Et finalement, ça a été dit lors de la réunion de l'instance nationale du supporterisme qui a eu lieu fin décembre, les représentants des supporters ont dit on n'était pas capable de s'exprimer à ce moment-là. L'émotion était trop forte, la perturbation était trop forte. Nous, en tant qu'ANS, ils l'ont dit clairement, on n'est pas vraiment un porte-parole, on défend les droits des supporters, mais on ne se sentait pas autorisé à s'exprimer. Mais effectivement, il y a une réflexion au sein des groupes et au sein de l'association au niveau national sur à quelles conditions elles peuvent s'exprimer et comment. Mais donc, je distinguerai vraiment la situation nantaise, qui est une situation particulièrement dramatique, avec une perturbation, une émotion qui est considérable, une enquête qui est en cours et des groupes qui voient pas véritablement comment s'exprimer. Une situation plus globale où il arrive de plus en plus que des groupes ultra pointent certaines dérives violentes ou que l'ANS se distancie de certains comportements. Et d'ailleurs, ça a été clair dans la manière dont ils ont communiqué autour des interdictions de déplacement qu'ils avaient réussi à faire casser. Ils ont toujours communiqué en disant maintenant on veut pas d'incident, quoi. On a permis que vous puissiez vous déplacer, donc comportez-vous de manière responsable. Donc quelque part, il y a eu quand même cette communication là. Mais c'est certain que les autorités, elles l'ont dit clairement lors de cette réunion de décembre, attendaient une communication publique de l'ANS, ce qui, pour les raisons que j'ai évoquées, n'était pas forcément évident pour eux à court terme, ce qui arrivera peut-être dans les prochaines semaines ou mois.
On est 8 ans après justement la loi de 2016 et pour est-ce qu'on n'est pas arrivé ou est-ce qu'on n'entre pas en tous les cas dans une forme d'âge de raison 40 ans après l'apparition du mouvement ultra en France? Ça me fait penser un peu à l'édito du temps, on l'avait évoqué ensemble avant l'émission, qui reprenait un slogan des ultras, pas de liberté sans responsabilité. Est-ce qu'on est en rentrée en tous les cas dans cette phase-là et est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce qu'elle est compatible en tous les cas avec la notion même ou la définition d'être ultra?
Alors, plusieurs réponses. Moi, ma réponse personnelle en tant que sociologue impliqué dans la volonté de construire des politiques de prévention, je suis assez en phase avec l'édito de Laurent Favre dans Le Temps. C'est de dire il faut effectivement reconnaître la liberté et les droits des supporters, dont les ultras, mais ça s'accompagne d'un certain nombre de devoirs et de responsabilités. La ligne qu'on a essayé de défendre avec des collègues pour mettre en place une politique préventive. Les supporters sont des acteurs, ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs et des responsabilités, et c'est ça qu'on aimerait définir. Donc ce cadre-là, moi j'en suis convaincu. Ensuite, par rapport aux ultras, est-ce que les ultras peuvent dénoncer la violence alors que ça fait partie de leur mouvement depuis la fin des années 60-70? Ça me paraît à court terme compliqué. En revanche, un discours de responsabilité très fort et de volonté de limiter les incidents, une prise de conscience au sein des groupes que si on demande à se déplacer, mais dès qu'il y a un déplacement, il y a des incidents qui sont créés. Cette réflexion interne et cette idée que faut peut-être y réfléchir à deux fois, même quand on croise un couple rival avant de déborder, je pense que ça peut faire son chemin. Et j'espère que dans la configuration actuelle, où il y a une menace très forte, c'est l'interdiction systématique des déplacements, même si de mon point de vue c'est compliqué à mettre en place, j'ose espérer que ça obligera les clubs à être plus responsables dans la préparation des matchs, les préfectures à être plus responsables dans l'anticipation des mesures, mais aussi les associations de supporters à jouer le jeu, à donner les informations pour que les déplacements soient organisés dans des bonnes conditions, et aussi à éviter certains débordements ou certaines attaques. Quand on demande à se déplacer, mais qu'on attaque à coups de pierre les supporters adverses, ça joue énormément sur la crédibilité de ce type de revendication d'autorisation à se déplacer.
Oui, ça c'est clair, et on l'a dit, c'est complètement débile. J'espère que ces supporters-là n'imaginent pas se déplacer à leur tour, et peut-être que d'ailleurs ce ne sont pas les mêmes.
C'est une grande question. C'est-à-dire que sur Marseille, qui est une ville compliquée, avec de nombreux groupes de supporters, une partie des supporters qui attaquent les bus font partie de la frange indépendante, manifestement, qui tout en étant dans les groupes ultra, n'y est pas complètement et veut être un peu plus radical. Mais il y a aussi des gens qui se déplacent pas forcément et qui se rendent pas compte des conséquences que ça a pour leurs amis amateurs ou leurs connaissances amateurs de l'OM qui, eux, voudraient se déplacer et qui, du coup, se retrouvent interdits de déplacement parce qu'il y a eu des incidents à Marseille.
Mais au-delà des interdictions de déplacement, on va finir par ça et ça va être la minute bisounours, mais on a vu des incidents aussi à Nantes, au moment de Nantes-Marseille, à propos d'un père de famille et des invectives de part et d'autre avec des supporters ultra qui étaient pas des ultras d'ailleurs de groupe, mais des gens de la tribune noire qui s'étaient invectivés parce qu'il avait un maillot différent. Et ça, c'est dans la réflexion globale sur notre rapport au football et au stade, accepter d'aller au stade avec des gens d'un maillot d'une autre couleur à côté de soi, un cousin, un ami, enfin voilà, ça devrait être possible. Alors c'est un peu bisounours, je l'ai dit, mais ça fait partie de l'examen de conscience de tout supporter, qu'on soit ultra ou pas. On peut chambrer, mais commencer à invectiver, on est dans voilà, le début de la violence qui peut passer ensuite à la violence physique parce qu'on ne supporte pas la présence de l'autre avec un maillot. Et ça, dans le foot, malheureusement, on n'y est pas encore. Hein.
Mais vous avez très bien posé le problème, c'est-à-dire que le football s'est construit sur l'opposition et sur ce que vous avez appelé à très juste titre le chambrage. Ce qui fait l'histoire, une partie du football, c'est les grands derbies, les grandes rivalités qu'on va appeler classiques, où avant chaque match on se rappelle les grands matchs, mais aussi les grands débordements qu'il y a pu avoir. Et finalement, on voudrait que le jour J, les supporters se comportent parfaitement alors qu'on cultive ces rivalités. Ça, les clubs en ont pris un peu conscience, et même les joueurs, c'est depuis la fin du XXe siècle, c'est-à-dire de pas forcément souffler sur les braises toute la semaine, pour ensuite s'étonner qu'il y ait des incidents le week-end. Mais le football est vraiment pris dans cette tension. D'un côté, il fait son sel des oppositions, des derbies, des classiques, des rivalités. Et en même temps, il faudrait que ces rivalités, ça reste du chambrage et ça déborde pas. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans le chambrage de l'opposition, comment on fait pour que ça reste dans un spectre acceptable et qu'on déborde pas sur des comportements violents, beaucoup plus problématiques?
Oui, bah c'est une bonne conclusion parce qu'on n'a pas la réponse à ça. Je pense que c'est possible quand même. Merci beaucoup hein, Nicolas Orcade d'avoir
merci
passé
merci
cette
beaucoup.
Heure
merci
avec beaucoup. Nous. C'était passionnant pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans nos tribunes. On vous remercie, on vous dit à bientôt. On va dire le moins tôt possible hein, qu'on n'ait plus de sujets en commun sur les ultras. On pourra en dire du bien.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi avoir des sujets extrêmement positifs sur les supporters. Et c'est ça qui a été bien pendant le confinement, c'est qu'on a vu qu'on pouvait parler des associations de supporters sur tout ce qu'elles font de bien. Moi, j'aimerais être aussi sollicité plus souvent, pas seulement sur des incidents, mais aussi sur les associations, leur rôle militant dans la ville, le rôle qu'elles jouent auprès de jeunes supporters auxquels elles fournissent un cadre, des responsabilités, etc. Le gros enjeu, c'est qu'effectivement, effectivement, ces associations de supporters peuvent avoir aussi des actions extrêmement bénéfiques.
Ouais, on en dit souvent du bien d'ailleurs hein, de ces actions-là et puis de l'animation en tribune. C'est pour ça qu'on voulait prendre le temps aussi d'expliquer ce rapport à la violence actuelle dans les tribunes de foot. Merci Nicolas Orcade.
Merci à vous.
Pierre Arnaud Barre, Simon Rongoat, Jean-Marcel Boudard, David Philippot, Sans Contrôle.
L'actu des Canaries a une touche de balle.
Bon voilà les amis, c'était dense, mais j'espère qu'on vous a bien renseigné, qu'on a pu apprendre des choses les uns les autres sur le phénomène ultra, sur les supporters et sur la violence dans les tribunes.
On a déjà éclairé David Philippot et ses dames.
Ce sera déjà une réussite. Merci d'avoir passé cette heure avec nous les copains.
C'était très bien.
On se retrouve mardi pour cette fois débriefer le Nantes-Clermont avec un son contrôle plutôt
volcanique.
Classique.
Un Nantes-Clermont volcanique.
Excellent.
Très, très bon.
Et puis on vous donne rendez-vous dans...
Jean-Marcel, on lui dit dans 3 mois maintenant.
Ouais, dans trois mois, Jean-Marcel.
Petite apparition.
Et puis rendez-vous dans une petite semaine ou 10 jours pour les 5 ans de la disparition d'Emiliano Sala avec un podcast Hommage David qu'on a préparé ensemble et qui sera diffusé de la même manière que celui-ci en lien avec la date anniversaire de la disparition d'Emiliano. Ne manquez pas celui-là non plus. Allez, salut les gars.
Salut. Sans Contrôle, le podcast 100% digital.
Proposé par les rédactions de Ouest France, Presse Océan et It West.